Europe 1.
Vous écoutez un podcast créé par BTLV, adapté et diffusé par Europe 1. Bienvenue dans Mystères et Inexpliqués. Dans cet épisode, la Gaule ésotérique avec Jacques Sirgent.
Alors, on va évoquer beaucoup de choses, et notamment la Gaule ésotérique. Parce que, on s'aperçoit que notre pays est un pays très ésotérique, hein, finalement.
Bah, c'est le pays, un des pays les plus ésotériques au monde, le plus ésotérique, pardon, je pense, en Europe.
Ah ouais.
Je maintiens toujours Paris, la ville la plus hantée, la plus ésotériste de France et d'Europe. Donc, on commence par les Gaulois, qui étaient présentés comme des barbares par la plupart des historiens anciens, Tacite, César. Parce que c'était une forme de diversion. Quand César envahit la Gaule, il a massacré tout le monde et puis il a préféré présenter les autres comme des barbares. Il faut rappeler qu'un barbare, pour Platon, c'est quelqu'un qui parle pas grec. Pour Aristote, c'est quelqu'un qui pense que la femme est l'égale de l'homme.
Ah.
Donc on peut tuer quelqu'un, mais il faut y mettre les formes.
C'est sûr.
Alors les Gaulois barbares, moi je veux bien, mais il y a un historien que j'admire beaucoup, un anglais qui s'appelle Tony Thorne, qui dit « Je n'aime pas parler d'évolution quand on parle des mentalités ou de l'imaginaire, parce que ça veut dire que qui dit amélioration dit supériorité. » Et l'imaginaire de nos ancêtres était beaucoup plus développé que celui d'aujourd'hui. Les Gaulois, par exemple, quand ils contractaient une dette envers quelqu'un, ils signaient un contrat, où ils donnaient leur parole, où ils signaient avec le sang, et ils disaient « si je ne peux pas te rembourser la semaine prochaine, ce sera dans l'au-delà ». Et c'était accepté.
Ah ouais.
L'important, c'était de s'engager.
Ouais.
Je me dis « chapeau, la marque de confiance, là, donc les gens n'étaient pas pressés de se faire rembourser ». Il y avait aussi le fêté. C'est vrai qu'ils faisaient quelques sacrifices humains, il y avait une tribu les femmes qui... C'était ponctuel. Deux, trois fois par an, on faisait des sacrifices, c'était pas régulier, c'était pas barbare, entre guillemets, c'était contrôlé.
D'accord.
Les Gaulois, qui sont les premiers en Europe...
C'était contrôlé, j'adore.
...à boire leur vin pur, parce que les Égyptiens, les Romains et les Grecs mettaient de l'eau dans leur vin, au sens figuré comme au sens propre. Pourquoi C'était surtout pour aseptiser l'eau, parce que l'eau était impropre à la consommation.
Ah, ouais.
Pour les Gaulois... le vin était presque synonyme de sang, c'était sacré. Donc, ou c'était un prétexte peut-être pour fortifier leur beuverie, mais les Gaulois buvaient leur sang pur, c'était considéré comme un sacrilège d'ajouter de l'eau au sang. Ils faisaient des sacrifices humains, ils ont voulu arrêter un peu ce genre de pratique qu'ils estimaient barbare, donc ils ont inventé les amphores à anse. C'est des vases dans lesquels on faisait le commerce du vin.
D'accord.
Mais ils ont ajouté les anses, c'est-à-dire un petit col de 10-15 cm de plus, pour pouvoir décapiter l'anse qui représentait le corps humain.
Ah oui, d'accord.
Donc on remplaçait la décapitation d'un corps vivant avec la tête par en coupant la tête de l'anse.
C'est mieux déjà.
C'est mieux. Et par contre, l'imaginaire, c'est grandiose comme idée.
Ouais.
Et c'était purement symbolique. C'était pas pour faciliter le transport des anses ou des amphores dans les bateaux. Donc en gros, c'était intellectuel, entre guillemets. Donc les Gaulois étaient très évolués, quelque part.
Ouais.
Beaucoup plus peut-être que les Romains et les Grecs.
Ouais.
Voilà. Donc,
on a eu des grandes légendes quand même de la Gaule qui avait une réputation un peu sulfureuse.
Les Gaules, c'est la tradition celtique, c'est le culte de la nature, les arbres, les plantes, pour ça que généralement tous les rituels avaient lieu dans les forêts, dans les clairières.
Avec des druides?
Ils avaient, un culte, les cultes qui mettaient 20 ans, qui apprenaient par cœur, qui ne faisaient pas confiance aux traces écrites.
Ouais.
Ils se retiraient dans une forêt 20 ans pour apprendre par cœur toutes les règles et réglementations. Et quand les Romains ont envahi Rome, la seule force d'opposition, c'était les druides. Donc ils ont tout fait pour détruire ça. Et c'est vrai que les druides ont perdu d'importance. C'est qu'il y avait moins de femmes que d'hommes parmi les druides, contrairement à les mythologies nordiques, où il y avait plus de femmes que d'hommes. Mais la réputation sulfureuse, c'était le culte des crânes, qu'on leur reprochait aussi, de couper la tête de leurs ennemis et d'en faire des
verres
de
chevet.
Voilà, c'est ça. Parce que soit la vie est dans le crâne, soit la vie est dans le sang.
Ouais.
Ça dépend des traditions. Mais les sacrifices humains, ils en faisaient, mais pas plus que d'autres.
Ouais.
Et ils avaient une tradition culturelle extraordinaire. Et puis le culte de la nature, c'est quand même beau, quelque part. D'où, à partir du moment où la France a commencé à être fortement christianisée, à partir du 6e siècle, ça c'est dans les sermons de Saint César d'Erle, la haine du culte à la nature. Ne vous réunissez pas dans les clairières, pardon, ne vouez pas de culte aux arbres, aux fontaines, aux cours d'eau.
Ah ouais.
C'était considéré comme fortement démoniaque. Ne vous tressez pas des lauriers.
Bon, ben je vois que Nicolas Hulot aurait fini la tête arrachée.
Voilà. Donc, c'était les ancêtres des écologistes, quelque part.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
C'est-à-dire que c'est marrant parce que les écolos ont toujours été chassés. Hein. C'est-à-dire qu'on les a toujours un peu moqués, toujours un peu raillés. Hein. Alors qu'on voit aujourd'hui encore qu'ils sont un peu le parent pauvre de la politique. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'ils agitent les bras, mais il ne se passe pas grand-chose, quoi.
Bah, il y a toujours le fait que vous préférez quoi? Vous préférez avoir une source d'énergie propre, mais qui vous coûtera 10 fois plus cher. Les gens, ils vont dire non.
Ouais, c'est ça.
En gros, c'est ça. Donc, ils ont du mal à trouver leur place. Ouais. C'est vrai.
Et donc, les écolos de l'époque étaient un peu malmenés par l'Église. Parce que finalement, en Gaulossier, dès que l'Église est arrivée, ça a foutu le bordel, en fait.
Ah ben, il fallait remplacer les divinités païennes par un seul dieu.
Ouais.
Donc, on en incorporait certains.
Ouais.
En gros, les divinités païennes devenaient les saints.
Ouais.
Et les saints pouvaient faire des miracles, comme les dieux anciens. Donc, c'était du syncrétisme. C'était pas mal comme idée.
Mmh.
Il fallait absolument ratisser large pour attirer un maximum de convertis. Mais cette haine de la nature, c'est quelque chose... c'était poussé à l'obsession. Chaque fois qu'il y avait un vent trop fort, un vent qui venait de gauche, un vent qui venait de droite, les feuilles qui tombaient, il fallait trouver un nouveau symbole.
Ouais, toujours.
Donc la religion catholique était, entre guillemets, nettement plus simple comparée à ça.
Qui étaient les divinités païennes à l'époque des Gaulois?
Ben, il y avait un héritier de Mars, un héritier de Mercure, c'était Cernunnos, le dieu cornu.
Mmh.
Commun à toutes les peuplades celtiques. Mm-hmm. Il y avait des druides, et en gros, c'est l'ancêtre des cornes du diable, du démon.
Voilà. D'accord.
Et on lui faisait quelques sacrifices humains, mais très ponctuels, pas beaucoup, et beaucoup moins que ce qu'en a fait l'Inquisition à partir du 14e siècle, en brûlant des dizaines de milliers de sorcières.
Jacques Sergent est avec moi ce soir jusqu'à 22h, on va marquer une première pause musicale, et puis on se retrouve dans quelques secondes à peine. Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover.
Ceux qui l'aiment l'écoutent pour savoir ce qu'il va dire. Ceux qui ont peur l'écoutent aussi pour savoir ce qu'il va dire. Tous les soirs dès 21h, Bob vous dit toute la vérité.
Et bien sûr, lui, on l'écoute sans avoir peur, hein, juste par pur bonheur. Jacques Sergent, conservateur du Musée des Vampires, avec qui nous organiserons une visite au Père Lachaise,
yes.
C'est promis, dès que l'hiver va arriver. On vous l'avait annoncé l'année dernière, on va y revenir. Alors, soit ce sera avant Noël, soit ce sera après Noël, dans tous les cas, vous pourrez y participer. Bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler plus en détail. En tout cas, si vous voulez écouter et voir Jacques Sergent, sachez que le 28 octobre, à 19h, il sera à la librairie Shakespeare et compagnie, à Paris. C'est sur les quais, à côté de Notre-Dame. Ce sera une soirée consacrée 100% à Dracula, c'est ça?
Oui, et en anglais, oui.
Et en anglais, voilà. Et puis, la première semaine de novembre, tu seras à la médiathèque de Villeneuve-Saint-Georges en 94, c'est ça?
Oui.
Pour exorciser nos peurs, en fait, c'est ça?
Pour que des ateliers pour enfants, pour qu'ils aient moins peur la nuit. Et ça, c'est une première aussi. Et je remercie la médiathèque de Villeneuve-Saint-Georges. Chapeau.
C'est voilà. Génial. Alors, on était en train de parler de la Gaule ésotérique. On va y revenir. Dites-moi, mon cher Jacques, quand tu regardes un peu le passé, que tu commences à te poser les... Et vraiment, avec un peu de recul, tu aperçois finalement que l'Église a pillé le païen. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui viennent aujourd'hui dans nos Églises, qui viennent du païen.
Ah bah, c'est une des grandes raisons pour lesquelles l'Église voulait détruire les traces ou les cantonner dans les bibliothèques des couvents et les monastères pour que les gens ne lisent pas les textes, pour qu'on ne se rende pas compte qu'ils avaient tout payé, le déluge. Le fait que dans la religion mésopotamienne du basdéisme, on avait annoncé la venue d'un sauveur qui naîtrait d'une vierge le 25 décembre, donc voilà, ils ont tout pris.
Ouais.
Voilà. Et,
ils ont fait la guerre à ceux qui vouaient encore des cultes aux païens.
En se calquant sur les lois, sur la législation gréco-romaine aussi, en matière de répression, oui, des croyances païennes. En gros, ils ont fait aux autres ce que les Romains leur avaient fait. Mmh. Exactement.
Mmh.
Comme ça se passe depuis l'Antiquité, ça.
On s'aperçoit que finalement, la France... regarde, on l'avait avec le Da Vinci Code, d'ailleurs, ils sont venus en France, hein, parce qu'il se passe des choses, il y a une histoire très très forte. C'est notre histoire très forte qui fait justement qu'on peut imaginer que la France est un pays hanté.
Bah, tu as raison de dire une histoire forte, parce que j'aurais des scrupules à dire une histoire belle. C'est quoi une belle histoire? L'histoire de France est forte, elle est riche, mais est-ce qu'elle est belle? La France est un pays où il s'est passé des choses horribles qui ne sont pas passées ailleurs.
Elle est jalonnée, cette histoire de massacre.
Voilà, alors, ça, les Templiers étaient plus massacrés en France qu'ailleurs.
Ouais.
Les Cathares, ça a été horrible aussi. Bon, le procès de Jeanne d'Arc avec une personne, mais c'est très symbolique aussi. La torture, la France est un pays où l'Inquisition a le plus torturé. Contrairement à l'Angleterre où il n'y avait pas de torture, ce qui est bizarre. Et on pendait les sorciers, on ne les brûlait pas. Étonnant, il y a eu la... En gros, c'est tous les siècles. Hein. 1314, les Templiers. 1413, Jeanne d'Arc. 1564, la Saint-Barthélemy, qui est 15 000 morts en 3 semaines, ce qui est énorme pour l'époque. Ouais. Et c'est pas Catherine de Médicis ou son fils, Charles IX, c'est les Français, tout simplement, qui avaient une haine des gens qui a été différent un peu. Ouais. Alors, une haine religieuse, mine de rien, qui ont massacré un siècle plus tard.
C'est un pays très raciste, la France, finalement, depuis toujours. Hein. Ouais. On n'aime pas les différences.
Quoi, il y a eu un sondage qui est paru ce matin, ça va en augmentant. On n'aime pas les gens qui sont différents.
Pourtant, c'est assez marrant parce que c'est la terre des droits de l'homme et c'est l'un des pays qui a accueilli le plus de monde.
À la confluence de plusieurs civilisations, ça aurait été le pays où on aurait dû. Mais quelque chose qui ne va pas.
Notre culture, elle est faite justement de ce qu'on a chopé ici ou là, quand même. Donc,
Oui, catholicisme n'est pas plus raciste, mais ceux qui ont commencé quand même en étant les plus intolérants. L'Inquisition, l'Inquisition a institutionnalisé la torture. La torture était interdite jusqu'au XIIe siècle. Et ils ont inventé ça, la torture pour tous, presque, à partir du XIVe siècle.
La torture pour les nuls.
Un luxe de détails et de raffinement. Il fallait que les clous soient placés à certaines distances, les chevalets, les estrapades. Par exemple, le supplice. Par l'eau avec extension. Vous êtes sur une petite estrade, vous avez les pieds attachés à deux anneaux, les bras aussi. On vous verse de 9 litres à 18 litres.
Dans le ventre ?
Oui.
Mais t'exploses ?
Hein ? Non. C'est calculé exprès pour qu'on ne meure pas. Le bourreau qui meurt, qui fait mourir quelqu'un, c'est une erreur.
En gros, 18 il rembourse. Litres de flotte ?
Eh oui, ça, c'est, j'ai étudié parce qu'on parlait de 4 litres, c'est faux. Il y a la première, si la personne n'avoue pas, on passe à la vitesse supérieure, c'est 9 litres.
Ouais.
Ça peut être en 3 heures. Alors, c'est ça, on a le droit de torturer quelqu'un qu'une fois, mais ça peut durer des mois.
Ah oui.
Voilà.
D'accord. On ne ferme pas la porte, quoi, en fait. Ouais, on revient demain. Oui. Bouge pas,
Donc, on est un peuple cruel. Il y a eu l'affaire des poisons. Il y a eu, pendant la Révolution française, la guerre de Vendée, où on a massacré veillards, femmes, enfants, jusqu'à 200, bon, c'est entre 200 000 et 250 000 morts. D'une manière, les colonnes infernales du général Thurot, des gens qui brûlent tout, les vivants, les vaches. Alors je me dis, il y a des millions de spectres de revenants qui se baladent, mais ça on n'aime pas en parler parce que ça évoque un passé. C'est les Anglais qui ont inventé ça. La plupart des revenants qui reviennent, c'est le cas de le dire, sont les malheureux qui ont été tués. Et qui est-ce qui est tué ? Ce sont les puissants qui tuent les faibles. Donc en gros, quand tu fais ça, quand tu mets en avant le côté fantomatique d'une civilisation, c'est que ça revient à faire une critique sociale.
Voilà,
comme on n'aime pas ça, on le cache.
Mais tu mets en lumière le côté sordide de la haute société. Quoi.
Quand on est en France, il y en a partout, il y en a aussi du Père Lachaise, mais on ne veut pas en parler parce que c'est l'absence de reflet dans le miroir, on ne veut pas être témoin de ce qu'on a fait dans le passé. Donc à partir du XIIe siècle, on fait des cathédrales de plus en plus grandes pour cacher les saloperies qui se passent derrière. C'est uniquement ça, cathédrale gothique, c'est sombre. La lumière vient d'en haut. En gros, t'as pas à voir ce qui se passe sur Terre, concentre-toi sur le ciel. C'est ça le message. C'est beau, mais c'est terrifiant comme message, comme symbole. Voilà.
Il y avait un bureau des tortures, parce que moi j'ai eu la chance dans les années fin 80, début 90, il y avait le musée des horreurs, je crois, ou le musée des tortures, qui était au Halles.
Oui, qui a fermé.
Qui a fermé, malheureusement. C'était assez intéressant, d'ailleurs, c'était assez sordide. Hein, mais d'ailleurs, ça ne marchait pas. C'est-à-dire moi, j'y suis allé 3-4 fois, j'étais seul. Hein. Mais quand je dis seul, c'est-à-dire seul. C'est-à-dire c'était reconstitué. Enfin, on avait reconstitué, si tu veux, des caves parisiennes, tu vois, des cachots, des choses comme ça. Et on voyait, en fait, des automates, en fait, mimant les tortures ou être torturé. Et c'était vachement bien fait. Et on voyait les trucs, mais juste hallucinants. C'est-à-dire qu'on se demande justement qui pondait les tortures, jusqu'où on allait. Est-ce qu'il y avait un bureau des études, tu vois, sur les tortures, quoi. Est-ce qu'on a des récits là-dessus ou pas ?
Il y a un code de procédure pénale qui a été publié en 1541 pour François Ier par quelqu'un qui s'appelait Jean Mille, avec 13 illustrations, gravures sur bois, sur les techniques applicables à l'époque. Et il y avait des techniques, il y a la courte pointe et la pelote. On ne sait même pas comment les gens étaient torturés. Il y avait les chaussettes soufrées.
C'est quoi ça ?
Tu trempes les chaussettes dans le soufre, tu les enfiles sur les pieds, et tu approches les pieds des feux. Voilà, donc à 10 cm, ça se met à brûler. Tu avais les brodequins, c'est les jambes qui sont immobilisées, tu enfonces des coins de bois pour faire éclater les chevilles. Oui, mais quand même, on est civilisé, on est pudique, on est chrétien, c'était pas réservé aux femmes, parce que pour faire ça, il faut écarter les cuisses. Donc les femmes, on leur écrasait les mains.
C'est mieux.
Donc on poussait misogynie, torture. Voilà. Alors il y a des juges qui étaient contre. Alors j'ai lu une étude récente qui dit non, la torture, on l'a piquée en dernier recours. Les juges n'étaient pas sadiques ou fanatiques, c'était de simples fonctionnaires. En gros, c'est la faute des torturés si on les torture parce qu'ils refusent d'avouer. C'est ça, hein. Si tu refuses d'avouer que tu vas au sabbat sur un balai, c'est ta faute à toi si tu es torturé. Parce que c'est vrai, on menace les gens avant. Et les tortures sont horribles. Pour qu'on présente la salle de torture à la future victime, ce qu'on appelle la question, et on pense qu'il va avoir suffisamment peur pour avouer.
Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au départ, c'est quelque chose pour faire peur, quoi.
Et dans les annales du Châtelet, sur je les ai comptés à peu près sur 500 cas répertoriés de personnes qu'on a torturées, il y en a 14 qui ont avoué. Alors, chapeau, nos ancêtres qui résistaient, malgré la torture, ils ne voulaient pas avouer quelque chose qu'ils n'avaient pas fait. En gros, la torture, ça ne marche pas. Donc, pour expliquer ça, les juges disaient oui, parce que s'ils n'avouent pas, c'est parce qu'ils n'éprouvent pas la douleur. Donc, le fait qu'ils n'avouent pas prouve qu'ils sont coupables. Donc, tout ce que tu dis, tout ce que tu dis pas, est retenu contre toi. C'est cette malhonnêteté intellectuelle. Fort, hein, bac plus 8, c'est moi ma formule. Il y a des gens qui me reconnaissent maintenant parce que je sors ça. J'ai certains types d'intellectuels dans le collimateur. Il ne suffit pas d'aller à l'école pour être quelqu'un de bien. Les pires des saloperies ont été faites par des gens qui sont allés à l'école. Bah, l'Inquisition, c'était les personnes les plus cultivées au monde. Jeanne d'Arc a été jugée par une dizaine de profs de la Sorbonne. Tous les massacres ont été faits par des gens cultivés. Je rappelle une de mes phrases fétiches du sociologue Edgar Morin. L'histoire de la culture se confond avec celle de la barbarie. Scandale permanent qu'ignorent les partisans des soi-disant grandes civilisations. Chapeau pour cette phrase-là. Voilà.
Beaucoup de bourreaux à l'époque. Qui était bourreau ?
Pardon ?
Qui était bourreau ?
Ah ! Il y a une famille connue, c'est la famille Sanson. On est bourreau de père en fils parce que c'est une technique. Et si l'Angleterre n'a pas appliqué la torture, on ne sait pas pourquoi. On s'est dit ils n'étaient pas plus humanistes que nous, pas plus gentils. Mais le fait est que quand on a commencé à condamner les Templiers au début du XIVe siècle dans toute l'Europe, les seules personnes qu'on a torturées, c'est les Templiers en Angleterre. Les prélats, je crois que c'était le roi Édouard II, ont dit, mais on ne peut pas torturer en Angleterre, on n'a pas de spécialiste. Et on refuse d'admettre que les Français sont les meilleurs au monde, on sera obligé de faire venir des Français pour apprendre aux bourreaux anglais. Il y a les textes.
Un joli titre de gloire, hein, quand même.
Voilà, c'est ça. Ouais. Par contre, les gens mouraient de faim dans les prisons anglaises, les sorcières.
Ouais, c'est ça.
Donc, on ne torturait pas d'une certaine manière. Ouais. Mais,
on laissait faire les choses.
Quoi, mais il faut être un spécialiste. Parce que.
Mais les mecs étaient sadiques quand même, quoi. Parce que pour être bourreau de père en fils, faut être sadique. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours demandé comment quelqu'un, à un moment donné, pouvait. Mais ça m'a fait ça aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Je me dis comment j'ai vu des choses incroyables sur la médecine, des médecins prendre des gosses, leur faire subir des choses incroyables. Comment ce mec-là, en rentrant après chez lui, voyant ses enfants, il pouvait pas faire un transfert.
Mais c'est ça qui est terrifiant. C'était même pas. Des sadiques, en gros, c'est la perversité d'après Colette, c'est le mal qu'on fait sans plaisir. Donc personne prenait son pied, donc c'était un perte de temps absolu. Si quelqu'un te torture et tu dis au moins il prend son pied, il y en a un sur deux qui obtient quelque chose. C'était même pas le cas là, donc on ne comprend pas. Et alors, c'est pas une excuse, hein. Il y a des historiens qui disent, mais non, ils faisaient leur boulot, c'est tout. On n'a jamais dit que les SS prenaient leur pied dans les camps de concentration, ça les excuse pas pour autant. Donc l'argument n'est pas là, mais je ne comprends pas.
J'ai vu des documentaires sur les trains de la mort, etc. Les déportés, c'était comme s'ils faisaient, des litres d'eau, du lait, c'est-à-dire que tout était planifié, machin. Alors tant là, mais c'était juste, c'est-à-dire qu'on oubliait l'humain, quoi, carrément.
Quand t'es juge et catholique, tu fais l'adage, pas de fumée sans feu. Comme quand il y a des gens qui sont arrêtés, tu dis forcément, ils sont peut-être pas coupables à 100%, mais ils sont coupables. Donc en gros, ou tu t'excuses en disant, ils sentent pas la douleur. Mais s'ils sentent pas la douleur, pourquoi les torturer? C'est comme au début du sida. Les sida, ça concerne essentiellement les toxicomanes, les homosexuels, en grande partie. Et j'ai rencontré des gens haut placés qui me disaient, en gros, c'est la punition du ciel.
Ouais, c'est ça.
C'est pour ça qu'on n'a pas voulu tout de suite chercher un médicament. C'est comme un Jack l'Éventreur à Londres. Alors, les victimes, c'était des femmes, des putes, des pauvres.
On en parlera de Jack l'Éventreur, puisqu'on va aller à Londres, bien sûr, dans pas longtemps. Oui, parce qu'en fait, l'émotion, finalement, quand t'as de l'émotion, tu peux pas le faire. Donc tu mets une certaine distance, et finalement, la personne que tu tortures, c'est juste un bout de viande. Et puis
on prévoyait ça. Dans le dernier code de procédure pénale écrit par Henri Boguet en 1603, sur comment faire pour torturer une femme, dans l'article 6, il y a marqué « Les juges ne peuvent pas être influencés par les sorcières. » Donc les juges ne peuvent pas être hypnotisés et facilement induits par la sorcière. Ce qu'on appelle l'hypnose, c'est une femme qui pleure, qui regarde le juge pour l'apitoyer. Donc le juge ne peut pas être apitoyé. S'il est apitoyé, c'est la preuve qu'elle est sorcière, puisqu'elle a de l'influence sur lui. Tout est retenu contre les gens, comme ça.
Moi, je trouve ça assez incroyable, parce que t'imagines, quand tu me dis bourreau de père en fils, ça veut dire que le mec, mon fils, tu seras aussi bourreau. Et c'est un bon métier, parce que j'imagine que le bourreau devait avoir pignon sur rue, en plus.
Non, ils avaient peur. Et c'était presque, degré juste en dessous de l'excommunication. On n'aimait pas lui parler, on n'aimait pas. Non, ça fait flipper quand même. C'est ça que Claude Le Couteau en parle de ça. Les gens me disent, les historiens qui disent, mais la mort, tout le monde meurt au Moyen-Âge, les gens n'ont pas peur. Je dis, si, la mort est inhabituelle, les gens ont peur de la mort. Donc les gens ont peur de la douleur, les gens n'étaient pas différents.
Le bourreau fait peur. Alors, on va marquer une nouvelle pause musicale, Jacques Sergent. On se retrouve dans un instant. Bien sûr, comme d'habitude, vos réactions, on les attend. Elles sont là, chaque soir, pleines de bon sens, parfois, de conneries aussi, de temps en temps, on peut le dire, hein, mais qui n'en fait pas et qui n'en dit pas. Moi, je suis le premier à le faire. Dans tous les cas, vous pouvez réagir sur le Facebook, Bob vous dit toute la vérité, ou par Twitter, Maudies Bob Vérité.
Vous vous posez des questions sur les mystères de la vie, tous les soirs, découvrez les réponses dans Bob vous dit toute la vérité.
S'il y a bien un endroit où vous devez aller quand même vous balader avec votre femme, votre petite amie, votre mari, votre fiancé, vos enfants peut-être s'ils sont ados, c'est au musée des vampires. Pourquoi ? Parce que c'est pas très grand. Par contre, il y a un homme qui est grand. Oui. C'est monsieur Jacques Sirgent. Alors lui,
merci.
Non mais c'est vrai parce que moi j'y suis allé et en fait ce qui est intéressant c'est que tu as des objets incroyables dans ce musée, des trucs d'époque. De collection et puis surtout c'est pas l'objet en lui-même finalement, c'est ce que tu en dis, ce que tu racontes, parce que derrière chaque objet il se passe quelque chose, c'est ça qui est dingue, hein.
Oui. Bon. Et puis bon, parado, j'ai depuis l'année dernière maintenant j'ai des ateliers pour les enfants de 5 ans, j'ai la maternelle Jacques Prévost de Tremblay en France qui a insisté, j'avais refusé au départ pour que je sois le premier à parler aux enfants du mal.
Ah mais très bien.
Puis j'ai eu 50 gamins, ça s'est très bien passé, c'était magique.
Ah, voilà. Alors les enfants ils te regardent comme ça, non ? Ils te regardent les yeux grands ouverts et.
Bah, c'est ceux qui ont un peu d'imagination et qui savent ce que c'est que le bien.
Ouais c'est ça. C'est,
ils étaient adorables. Si je ne prépare jamais rien, je m'adapte au public. Et là je suis tombé sur des moments adorables. Ils m'ont parlé du bien vraiment, ils savaient ce que c'était que le bien. Ah, j'ai dit, vous savez ce que c'est que le bien ? Je vais vous parler du mal. Sinon j'aurais rien dit.
Non, c'est génial. Ben voilà, donc il y a aussi en dehors des ados des enfants, des plus jeunes. Donc le musée des vampires, on mettra bien sûr le lien comme d'habitude hein, sur la page du podcast. Alors Jacques, on était en train de parler de la France, France hantée, normale quand on voit tout ce qui s'est passé. C'est vrai que la France a été territoire de guerre toujours. Et si on peut en croire certains, ils ne se sont pas tous réincarnés ces esprits.
Non. Alors, qui se réincarne ? Donc, les Anglais ont une théorie, dit de sociologie qui tient la route. C'est généralement ceux qui sont tués, torturés, exploités sont les faibles.
Ouais.
Donc, c'est eux qui reviennent.
Ouais.
Et le fait qu'ils reviennent met en cause un peu la société. Donc, on n'aime pas en parler.
Ouais.
C'est l'absence du reflet dans le miroir. On ne veut pas évoquer ce qui fait mal, là où ça fait mal.
En fait, on s'aperçoit qu'en France, bon, y a Paris est un lieu. Très fort au niveau de l'ésotérisme. On a vu des trucs incroyables. Je me souviens que l'église Saint-Eustache, on y emmurait des gens et les gens ne mangeaient qu'au bon vouloir des passants. Hein. C'est-à-dire que c'était hallucinant. Vous imaginez quand même une personne qui reste 30 ans à l'intérieur d'un petit truc, une meurtrière, on lui donne à manger, donc ses excréments, ses machins, ces trucs. Donc vous imaginez le truc quand même. C'était juste assez hallucinant. Hein.
Je crois que dans les caves de la Pitié-Salpêtrière, on mettait les filles de joie à côté des aliénés. Je veux dire, c'était des milliers de gens qui étaient enterrés vivants, presque comme ça. C'est une époque relativement récente.
C'est juste un truc de fou. Mais il n'y a pas que Paris. J'imagine. Lyon était une ville très ésotérique aussi. Il s'est passé des choses incroyables à Lyon. À Toulouse, tous les endroits finalement.
Parce que
tu parlais des cathares et tout, c'est le sud-ouest quand même.
Bah, il y a Vauvert dans le Gard, au diable Vauvert. C'est là où on a torturé le plus de sorcières. Ouais. Lyon, je ne connais pas tellement. Toulouse a une grande, même assez récemment, une grande appellation d'être une ville, entre guillemets, satanisante.
Ah ouais.
Voilà.
Putain, je suis Toulousain, merde.
Et puis, il n'y a pas que ça, mais bon.
Bon, bah oui, et puis c'est une belle ville du rugby, surtout. Ouais. Le rugby, comme ils disent. Alors, Jacques, bien sûr, Paris, tu le disais, Français, on torture. En Angleterre, on ne torture pas.
Non, on a torturé les seules personnes qui ont été soumises à la question, comme on disait, c'était les Templiers, sur l'ordre du pape Clément V. Mais il y a eu un grand débat. C'était une monarchie parlementaire. Au cours des jugements, il y avait un jury.
Ouais.
Un jury, pardon. En France, sous l'Inquisition, le juge faisait tout.
Ouais.
En Angleterre, le juge ne fait que instruire le procès et mettre la sentence, mais c'est le jury qui décide.
Ouais.
En fin de compte. Et on ne voulait pas importer des bourreaux français, parce que c'était des spécialistes. On ne voulait pas reconnaître que les Anglais étaient capables de torturer.
Ouais.
Mais on ne sait pas, c'est pas parce qu'ils étaient plus humanistes que les autres, il y a un mystère là, voilà.
Ouais, il y a encore l'orgueil anglais.
On pendait les sorcières plutôt que les brûler, voilà aussi.
Alors, il y a un personnage qu'on a effleuré tout à l'heure, je voulais qu'on y revienne, parce que là, pour le coup, quand on parle d'ésotérisme, c'est le mystère. D'ailleurs, il y aura peut-être une émission complète à faire dessus, c'est Jack l'Éventreur.
Je t'en parlerai hors antenne, j'ai une spécialiste qui est venue au musée, qui a écrit un bouquin il y a une dizaine d'années. Qui est pour moi le plus convaincant. Elle a trouvé un 38e suspect et c'est assez grandiose.
Elle est française ?
Elle est française, elle a un nom anglais.
Ah, ben il faudra l'inviter parce que On va effleurer. Voilà. Ouais, Jack l'Éventreur, personnage particulier. Moi, j'ai vu plein de films de ceux, dont un avec Sleepy Hollow, je crois, c'était avec Johnny Depp.
Johnny Depp, oui. From Hell, oui.
Voilà, ça va, c'est pas Sleepy Hollow. Non, si, c'est From Hell.
From Hell, oui.
From Hell, qui est juste génial. Hein, c'est, en fait, c'est l'histoire vue par, le, par l'enquêteur, si tu veux. C'est ça qui est assez incroyable. Qui, pour toi, qui, quoi, Jack l'Éventreur?
Je ne sais pas qui c'est, mais je pense savoir pourquoi on l'a pas arrêté. Ma théorie, c'est qu'on voulait pas l'arrêter.
Pourquoi?
L'Angleterre, malgré le fait qu'il ne torturait pas et était la première monarchie parlementaire, est un des pays où la misère était pire qu'ailleurs en Europe. J'ai jamais compris ça. La misère à Londres, c'est pire qu'ailleurs. Donc, au 19e siècle, l'époque victorienne, qui est la pire que l'Angleterre ait connue, la plus hypocrite, la plus misogyne, la plus haineuse envers la femme. Il y avait une misère dans Whitechapel qui rassemblait ce que la population avait de plus pauvre.
C'est un peu, d'ailleurs, nos halles, hein, à l'époque, c'était un peu la cour des miracles, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait tout le monde à Whitechapel. Hein. Ouais. C'est le quartier des halles à Paris. À l'époque, c'était un peu pareil, quoi.
Mais c'était vraiment 95% de la ligne de population. Là où il y avait plus, il y avait, je crois, 80 whorehouses, bordel. Il y avait 800 prostituées, ce qui était énorme.
Quel bonheur.
Voilà. Ah non, c'était là. C'était.
Non, mais je plaisante,
c'était
des sorcières. C'était la cour des miracles, quoi. Voilà. C'est ça.
Et donc, Jack l'Éventreur, pour certaines personnes, est présenté comme le sauveur, en quelque sorte, de l'humanité, parce qu'à partir des meurtres qui ont été commis, on a attiré l'attention du monde entier, et l'Angleterre a eu honte, quelque part, pas spécialement pour les raisons humaines, mais le fait est, comme c'était la première place financière au monde, on se disait, ça fait quand même jaser, ça.
Donc, ça fait désordre, un peu.
On a installé l'eau courante, petit à petit, l'éclairage public. Sinon, on ne l'aurait pas fait. Parce que ça faisait des années que les prostituées étaient charcutées à Whitechapel.
Martha
Trabram, en avril 88, a été massacré, pas une ligne dans la presse. Alors, à partir du 31 août 1988, quand il y a eu la première victime, Mary Ann Nichols, dit Polly Nichols, pourquoi est-ce que la presse, toute la presse anglaise en a parlé? Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on avait découvert que le duc de Clarence, le prince Victor Albert, fille de la reine Victoria, qui en plus d'avoir un grain, vraiment, fréquentait les prostituées à Whitechapel en carrosse royale.
D'accord.
Donc on a dit, dame Ned, il ne faudrait pas qu'on l'accuse d'être le meurtrier. Donc on ne veut pas savoir qui c'est, mais on ne veut pas que les gens pensent que c'est quelqu'un qui n'est pas Jack l'Éventreur. Donc en gros, c'était pour ne pas faire arrêter ou éveiller des soupçons sur la famille royale. Donc, bon, il n'y avait pas de police scientifique, comme au Moyen-Âge. Pourquoi est-ce qu'on torturait les gens? On en parlait, c'est pas par plaisir, c'est parce qu'il n'y avait pas de preuves.
À
moins de voir un assassin qui s'enfuit d'une maison avec une sacoche pleine d'or en tenant une épée ensanglantée. Les témoignages, c'était la médisance. Il n'y a pas de preuves scientifiques, il n'y a pas d'empreintes. Donc, on ne peut pas prouver un crime. Donc, la seule manière de faire avouer quelqu'un, c'était de torturer. En Angleterre, c'est quoi les motifs pour un meurtre? C'est la jalousie, la colère, l'envie, la cupidité. S'il n'y a pas ces motifs-là, si vous tombez sur un tueur en série qui est simple dans la journée, vous ne pourrez pas l'arrêter, surtout dans un endroit où les rues ne sont pas éclairées. Donc, il y a eu 37 suspects différents, dont une femme, mine de rien. Mais
quand même, il y a eu une femme aussi comme suspect.
Mary Piercy, sage-femme, qui a été arrêtée pendant 3 jours et qui a été condamnée, d'ailleurs, un an après sa libération, à être pendue parce qu'elle avait éventré la maîtresse enceinte de son mari, sage-femme à 95, 125 kilos. La seule personne qui pouvait se balader à Whitechapel avec un tablier ensanglanté sans être inquiétée. Et c'est elle qui a écrit la plupart des lettres au Strand Magazine disant « C'est moi, Jack l'Éventreur, on a trouvé son ADN sur les timbres il y a 5 ans. Mais la police a été obligée de la libérer au bout de 3 jours alors qu'il soupçonnait que c'était elle parce que la police ne voulait pas admettre qu'une femme pouvait les berner, les ridiculiser. En gros, on laisse partir une gonzesse parce que les victimes, c'est qui? Des femmes, des putes, des pauvres, ça n'intéresse personne. Mais la police anglaise, il ne faut pas qu'elle soit ridicule. Donc c'est là que je dis, on n'a rien fait pour l'arrêter.
Le problème, c'est que l'Angleterre est prise à son propre piège parce qu'elle ne veut pas s'intéresser à tout cela parce que ce sont les pauvres, les machins, tout ça. Sauf qu'à un moment donné, le peuple s'énerve. Et donc, fatalement, l'enquête quand même avance. On essaye quand même de faire avancer l'enquête. On a on le voit dans From Hell, c'est-à-dire qu'on a des policiers qui essaient de comprendre.
L'inspecteur Berlin, qui pensait qu'en réalité que le sage-femme c'était elle, et c'est lui qui a dû libérer la femme. Mais la haine de la femme, je pense, est plus forte, et le fait qu'on voulait que la société victorienne est stratifiée, on ne voulait pas remettre en cause la société. Les victimes, c'est des femmes, des putes, des pauvres, ça n'intéresse personne. Et Jack l'Éventreur était considéré par beaucoup comme l'instrument de Dieu pour punir. Parce que si on devient prostituée au 19e siècle, c'est pas parce qu'on a faim, c'est parce qu'on a le diable au cul. J'ai trouvé des textes sociologiques.
Oui, c'est ça.
Une femme qui parle d'amour, qui fait le premier pas dans un rapport amoureux, est le diable. Et puis, le plus grand critique d'art anglais de l'époque, Walter Pater, avait trouvé la solution. Pourquoi est-ce que la Joconde sourit? c'est un vampire. Ouais, c'est ça. Ça sourit heureux. Une femme qui a du plaisir, ça peut être qu'un vampire. Tu te rends compte, à cette époque-là, de sortir des imbécilités comme ça.
Ils sont cons parce que moi, une femme qui a le diable au cul et qui fait le premier pas, je dis c'est Dieu pour moi.
Oui, oui,
c'est, c'est toi Dieu qu'on aurait fait en disant
Dieu existe, c'est ça, oui. Dieu existe. Je me fais draguer.
Oui, oui.
Quel bonheur. Il faut bien un peu de légèreté dans cette émission parce que c'est vrai que ce sont des. Parce que tu sais ce qui est le plus déroutant dans tout cela ? En fait, c'est la. Comment dire ? Comment tu instrumentalises la pensée ? C'est-à-dire que l'idée de te dire que ça peut pas être une femme parce que ça ridiculise la police. C'est-à-dire qu'on, s'il faut, on est passé peut-être à côté du
c'est ça, parce qu'on dit,
de Jack l'Éventreur.
Au moins, les gens étaient malheureux parce que la société était embryonnaire, était pas très civilisée. Je dis non. Tous les crimes, tous les pires des choses, les bonnes choses aussi peut-être, ont été trouvées par des intellectuels. S'ils avaient utilisé leur esprit à faire le bien, à trouver le bonheur des gens, plutôt que de dire comment est-ce qu'on va inventer un instrument de torture, c'est comme on faisait des calculs savants, parce que une sorcière met un quart d'heure pour brûler sur un bûcher. Ouais. Et il y a des juges qui disaient c'est pas assez. Il faut qu'elle souffre plus. Donc on faisait venir des géomètres et on calculait la distance à laquelle il fallait placer les fagots pour que la femme ait au moins une heure pour crever. Ouais. Si on avait passé son temps à dire tiens, on pourrait peut-être améliorer l'agriculture, non. Donc en gros, c'est les intellectuels qui ont foutu le bordel, pour moi. Les poètes essayant de sauver tout ça, mais ils étaient pas assez forts.
Bien sûr. Et puis j'avais peur surtout de se retrouver des fois sur le bûcher. Hein,
exactement.
Parce que parfois l'intellectuel, on le disait, ah, sorcier, hop,
ou
terminé.
Pendu,
Dis-moi, ce qui est incroyable chez Jack l'Éventreur, c'est la minutie avec laquelle il découpe ses victimes, en fait, finalement, parce qu'il les torture. Parce que là, pour leur coup, c'est là qui a été assez incroyable.
Bah, on a dit au départ, c'est ça.
On a cru que c'était un chirurgien.
C'est ça, un chirurgien. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, pour faire une diversion, comme le fils de la reine victorienne n'était pas un intellectuel, on a accrédité l'idée de laquelle, selon laquelle, c'était un médecin. Ouais. Mais c'était un grand chasseur, il découpait le gibier. Et on sait maintenant qu'on n'a pas besoin d'être très fort en chirurgie pour découper le gibier comme ça avait été fait, c'est ça. Mmh. Alors j'ai une théorie en disant que ça peut être une diversion aussi. La première victime a été retrouvée avec une morsure au cou.
Ah !
Vidé de son sang, d'où la thèse qu'il s'agit d'un vampire. La presse a parlé de vampire pour premier meurtre. La presse préférait croire à une intervention surnaturelle que pouvoir accepter le fait qu'un être humain puisse s'abaisser à faire de tels crimes. Ça a très vite disparu. Mais dès le premier meurtre, et on ne sait toujours pas dans une rue sans caniveau pourquoi le corps a été vidé de son sang. Alors on parle du fait que, comme les prostituées étaient pauvres et qu'elles n'étaient pas sûres d'avoir assez d'argent pour payer leur chambre tous les soirs, elles dormaient dans la rue, mais vêtues de tous leurs vêtements. Donc elles avaient trois couches de vêtements. Et le vêtement aurait absorbé tout le sang. Mais le premier truc qu'on brûle quand on trouve une victime qui est morte par assassinat, c'est de brûler les vêtements. Donc voilà.
Dis-moi, la cour d'Angleterre a eu très peur à cette période. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parce qu'il y a eu de forts soupçons, il y a eu plein de choses.
Il y a une légende, la reine d'Angleterre, à part d'avoir un grain, il y a un grain de folie dans la famille d'Angleterre, il y a une légende depuis le XVIe siècle qui stipule que tous les 700 ans, il y a un vampire qui naît dans la famille royale et qu'il a besoin qu'on lui sacrifie une victime par an pendant ces 700 ans.
Ah, une victime et par an ?
En Écosse, je crois, il y a le château de Glamis où sur plusieurs centaines de pièces, il y a une pièce qui est emmurée. Il paraît-il que c'est là que ça se fait. Mais la légende existe. En plus, à l'époque des meurtres de Jack l'Éventreur, si on laisse l'idée circuler selon laquelle il s'agit peut-être d'un vampire, c'est pour ça qu'on a tué dans l'œuf cette théorie-là, et qu'on a inventé de toutes pièces la théorie du médecin, ce qui est gênant parce que des gens qui avaient vu quelqu'un qui n'était pas un médecin ne sont pas allés raconter ce qu'ils avaient vu à la police, parce que ce qu'ils avaient vu, ce n'était pas un médecin. Donc en gros, avec cette théorie-là, on a ralenti l'enquête, justement.
L'auteur dont tu as parlé tout à l'heure, qu'on va sûrement inviter, aurait trouvé un 38e suspect, c'est ça ?
Ah oui.
C'est 37 suspects quand même. Donc.
Le bouquin a quand même vendu 40 000 exemplaires. Hein.
D'accord.
C'est pareil, il y a 8 ans. Et pour le problème, c'est la première femme française, c'est la première française qui écrit, donc c'est pour ça que le bouquin n'a pas encore été traduit.
Ouais.
Et je me dis, c'est grandiose parce que ça tient vraiment la route.
Vraiment la route.
Et puis elle a passé 15 ans de sa vie.
Ouais.
Elle a tout épluché, tout étudié, dit chapeau, ça c'est. Voilà. Oui, mais on réserve la surprise, quand tu la rencontreras, c'est vraiment quelqu'un de très très bien.
Parce que mine de rien, on n'a toujours pas la réponse, hein. C'est ça qui est incroyable. On ne sait toujours pas qui est Jack l'Éventreur.
Voilà. Bah, je te dis, sur les 39 suspects avec elle, chapeau pour elle. Voilà.
Eh bien, peut-être allons-nous le découvrir la prochaine fois lorsque cet auteur viendra nous voir. Restez donc avec nous. Mon nom est Bob et tous les soirs, entre 21h et 1h et minuit, je vous dis toute la vérité.
Pour contacter Bob et lui laisser un message, contact@bob-toutelavérité.fr.
Alors Jacques Sirgent, on va continuer tranquillement, on va se rapprocher de 22h. Ah tiens, avant tu sais qu'on a un égrégore ici quand même, tu vois. Tu sais qu'on a fabriqué avec Vincent Lauvergne, un magicien, un égrégore. Et j'aimerais lui adresser ma petite prière, parce que de temps en temps il faut l'alimenter, tu sais, l'égrégore. Donc je rappelle à tous ceux qui auraient oublié de penser à Vérité, puisqu'elle s'appelle Vérité, cet égrégore, que cette formule, il faut la répéter de temps en temps. Par la foi que nous te portons, atteins l'objectif de ta création et augmente chaque jour l'audience de l'émission. Bob vous dit toute la vérité.
Et pas de sacrifice humain, t'es sûr?
Non, rien du tout. Un jambon peut-être, un truc comme ça. Une tranche découpée, mangée. Mais jambon de Parme, je préfère.
Oui. Ou du boudin avec
voilà,
du sang.
Ou du boudin blanc, voilà. Bon, dans tous les cas, Jacques Sirgent avec moi. J'aimerais qu'on aborde une ville aussi, là, en Europe, qui fait... qui est pleine de mystères. Mystère parce qu'elle a le plus beau carnaval du monde, peut-être, c'est Venise.
Ouais.
C'est vrai, il y a des palais dans tous les sens, là aussi, vieille ville. Là aussi, l'ésotérisme est important.
Oui, alors bon, en Italie, mais c'est le pays d'Europe où c'est le plus étouffé à cause de la mainmise de l'Église. On ne peut pas, ça concurrence avec le ciel. Donc il y a un bouquin, bon, j'ai une bibliothèque unique au monde, je la mets en avant, dont certains bouquins remontent au XVIIe siècle. Il y a un bouquin qui manque, c'est Les Vampires de Massimo Introvigne, qui était un conseiller auprès de Jean-Paul II dans tout ce qui était dérive sectaire. Il a écrit un bouquin sur la sorcellerie qui est assez phénoménal, il y croit, vraiment, aux sorcières. Et son bouquin sur les vampires a disparu dès qu'il est paru. En italien, comme en français, on ne trouve pas. Non, il n'est pas mort, mais il a changé totalement de fonction.
D'accord.
En gros, on étouffe tout ce qui est ésotérique en Italie. Donc, Venise, il y a une habitante connue à Venise qui s'appelle Donna Leone, c'est une Américaine, dans une Italienne, qui vit à Venise depuis 25 ans. Elle a créé un personnage, elle a écrit des polars, qui sont parmi les polars les plus lus au monde. D'accord. Elle a créé un commissaire qui s'appelle Brunetti, c'est grandiose. Elle a écrit, je crois, 25 romans qui sont traduits dans 30 langues, sauf en italien.
Ah.
Personne ne connaît, pourquoi? Parce qu'elle révèle le côté sombre de Venise.
Ah ouais.
Que ce soit les trafics des déchets toxiques, que ce soit les meurtres, que ce soit l'ésotérisme.
Ouais.
Tu te rends compte, ça?
Ouais.
Un auteur qui est occulté et est connu dans le monde entier.
Ouais.
Il y a une série télévisée, ça passe pas en Italie.
Elle vit là-bas et tout.
Elle vit à Lille, elle connaît bien et c'est pour ça. Donc ce qu'elle dit, en gros, c'est vrai. Et puis c'est très bien écrit. Par contre, c'est très humain, il y a des gens très bien, mais il y a des gens qui sont pas bien du tout.
Bien
donc si on occulte un peu le côté mafieux de la ville, imagine ce qu'on va raconter sur les vampires. Donc il y a des sectes adorateurs de vampires, il y a des trucs méchants, il y a des trucs satanisantes. On a retrouvé il y a quelques années un squelette de femme avec une brique dans la bouche, en gros qui manipulait pour l'empêcher de marcher dans un cimetière en face de Venise. Donc on sait qu'il y avait des pratiques. Donc c'est pas parce que les gens devenaient vampires qu'on faisait ça, c'est parce qu'on avait peur que les gens deviennent vampires.
Ah ouais.
Mais juste une petite précision, je me dis, si tu retrouves un cadavre qui a soupçonné-t-on était un vampire, tu dis c'était quelqu'un de méchant, je dis non. C'est généralement, les vampires deviennent vampires après leur mort pour venir se venger sur Terre des gens qui leur ont fait du mal. Donc en gros, c'est le reflet de la mauvaise conscience des gens. Ouais. Si t'as fait du mal à un de tes parents qui meurt, t'as peur qu'ils viennent se venger. Donc tu vas tout faire, tu vas lui couper la tête, te mettre entre les jambes, tu vas lui mettre une brique dans la bouche, tu vas lui scier les dents pour qu'il ne revienne pas. Mais c'est pas le mort qui est méchant, c'est toi.
Ouais,
c'est toujours l'absence de reflet dans le miroir, ça reflète la mauvaise conscience des vivants plutôt que celle des morts. Et pour petite anecdote, je vais peut-être raconter une fois, mais je suis pas sûr. Je suis d'origine italienne par ma mère et mes ancêtres maternels avaient un très beau domaine, un immense hôtel particulier en Toscane qui s'appelait la Villa Diane, qui servait de lieu de villégiature à Alexandre Dumas pendant plusieurs étés de suite. Et c'est là qu'il a composé la plus grande partie des Mille et un fantômes où il y a plusieurs histoires de vampires. Et pendant la guerre, ce lieu a été envahi, réquisitionné par l'état-major allemand en Italie. Et généralement, l'état-major allemand, s'il torturait les gens, ne torturait pas les lieux, il respectait les lieux. Et ce lieu a été mis à sac parce qu'il cherchait quelque chose. Et on n'a jamais su quoi. Je me dis, qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait certainement les carnets d'Alexandre Dumas, il cherchait traces pour savoir les sources de ses renseignements sur le bouquin. Et là, je n'ai pas de preuve, mais je me dis, ce n'est pas une coïncidence.
Ouais.
Il cherchait pourquoi Alexandre Dumas avait écrit Les Mille et un fantômes, les histoires de vampires dans cette maison-là.
Venise, donc, en endroit. Où on a pu noter, là aussi, des choses assez particulières. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait si l'ésotérisme existe toujours? Est-ce qu'on a eu des grandes affaires sur l'ésotérisme?
Il y a l'auteur Jean-Paul Bourg qui a écrit un bouquin là-dessus. Jusque, mettons, il y a 20 ans, on avait trace de sectes,
de
groupes. Alors, mais il faudrait que j'y aille moi-même. Mais c'est très, très bien caché.
Parce que si on parlait de la France, qui est un pays plein d'histoire, l'Italie aussi, avec tout. Puis alors, Il y en a eu des morts aussi en Italie, avec les jeux du cirque et les machins. C'est-à-dire qu'on les a, on en a tué un paquet. Quoi.
Et Plane le dit, hein, si les morts des chrétiens des gladiateurs servaient à alimenter en sang les patriciens. On vendait le sang des gens morts dans l'arène pour nourrir les riches à Rome, ça. On le sait depuis toujours. Ça. Ah oui, pratique vampirique, ça.
Qu'ils buvaient le sang des
pour acquérir leur force, leur âme. Donc en gros, c'est relance du vampirisme là-dedans.
Tu t'es jamais posé la question de savoir jusqu'où la nature humaine peut aller quand tu vois ça, parce que tu te dis, il y a un peu de bon sens, tu te dis, mais comment je peux boire le sang de quelqu'un qui est mort, qu'on a tué, enfin tu vois, et tu te dis, c'est ce qui m'étonne le plus chez l'homme, hein, c'est son degré de cruauté, soit de bêtise. Tu vois, mais vraiment, quand je dis la bêtise, tu sais, le mec bête, quoi. Le mec, qui dit, mais tu ne. Tu sais, c'est. Parfois, ça t'est arrivé, tu dis, mais tu n'as pas réfléchi. Tu dis à quelqu'un, mais c'est du bon sens, il n'y a pas.
J'avais discuté un jour avec ça, avec Clotilde Lalbepierre, elle avait fait une savante distinction entre cruauté et méchanceté. Ouais. La méchanceté est permanente, la cruauté est.
Et occasionnelle.
Temporaire, occasionnelle et voulue. Et je me dis, non. Comme disait Massimo Tornevigné, la sorcellerie blanche et noire, ça n'existe pas. Un sorcier qui fait quelque chose de gentil pour obtenir un résultat, si ça ne marche pas, il va passer la magie noire. Il ne va pas s'arrêter là, ce qui est vrai. S'il a le pouvoir, il va en profiter. Même chose pour la méchanceté et la cruauté. La peur fait dire des choses, fait faire des choses. Moi, j'ai enseigné il y a 20 ans dans une autre vie, dans une entreprise, et je me suis mis mal avec le DRH. J'avais raison, il avait tort. Mais une histoire de méchanceté. Quelqu'un, en gros, il voulait que je donne des cours d'anglais à des gens qui ne pouvaient pas apprendre pour pouvoir les virer. Le but n'était pas qu'ils apprennent, c'était les cours d'anglais servaient uniquement à écrire.
Un prétexte, quoi.
J'ai refusé. Et du jour au lendemain, les cadres qui m'appréciaient beaucoup, en gros, je passais dans le couloir, je tendais la main, ils passaient sans me boire.
Ah oui, d'accord.
Parce qu'on leur avait dit personne non grata. Je me dis, à ce point-là, j'étais devenu un fantôme.
Et c'est ça. Voilà.
Et là, ça m'a fait peur. Et donc, en gros, pour moi, c'est pas la méchanceté, c'est pas le plaisir de faire le mal, c'est la peur. Et les gens, quand ils ont peur, ils sont capables de faire n'importe quoi, même on ne les reconnaît plus. Et c'est ça, la seule chose qui me fait peur, c'est ça. Comme quand je suis allé en Louisiane il y a 3 ans, mon ex-futur fiancé qui m'a concilié du jour au lendemain presque comme le mal absolu.
Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, on en avait parlé de cette aventure en Louisiane, tu avais eu d'ailleurs une aventure dans un cimetière, mais puisque je parle de cimetière, il reste 3 minutes. Tu es un spécialiste du Père Lachaise. Je dis, on va très vite monter cette après-midi au Père Lachaise, cette journée, même on fera avec un déjeuner et tout. Les rituels continuent au Père Lachaise toujours ?
Les rituels continuent après une interruption. Rituel, par exemple, concernant la mutilation des anges et des croix.
Toujours.
Toujours 24 anges, j'en ai retrouvé un autre. Les croix dont on scie la branche droite, qui permet d'accéder au ciel. Il y a une croix qui était sciée il y a 8 mois. En gros, ça faisait au début du 19e siècle, on sciait les croix. On mutilait les anges. Donc il y a quelqu'un qui se balade avec un marteau et une scie. Et parce que j'ai trouvé dans un coin peu fréquenté une tombe sublime où il y a le plus bel ange du Père Lachaise. C'est un petit enfant qui est à genoux. C'est à pleurer. Et on lui a scié l'aile droite et il y a ça. Bon, il y a une femme, les anges n'ont pas de mère, mais il y a quand même une femme qui peut être sa mère derrière lui. On lui a scié à l'avant-bras pour qu'elle ne puisse pas le protéger. Je me dis, waouh, ça c'est méchant ça. Et ça continue. Voilà. Il n'y en a pas des milliers, il suffit qu'il y en ait un. Et il y a un autre dans le coin des vampires où toutes les traces d'amour disparaissent. Il y a un groupe de personnes qu'on avait visité, qu'on visitera parce que le rituel continue. Parce que je laisse des traces quelquefois, et des traces d'amour, des trucs, et tout ça s'est détruit systématiquement. Donc je pars du fait que ce n'est pas un seul individu, il y a un groupe de personnes qui font ça pour les raisons très alambiquées, très réfléchies, c'est très pensé.
Oui, ce n'est pas l'œuvre d'abruti là pour le coup. Là, ça, on réfléchit bien hein, quand même. Ouais. Donc, on sait la portée du geste et la conséquence. Quoi,
voilà, exactement. Ouais, et je leur pardonne d'autant moins.
La plupart du temps, ce sont des jeunes ou pas des jeunes ? Plutôt des
je n'ai jamais vu. Et puis, il y a des risques pour découvrir qui faisait ça. J'ai jamais. Si, il y a 3 mois, j'ai vu 2 jeunes, 14-15 ans, qui étaient assis dans un endroit où on ne peut pas s'asseoir. Ouais. C'était, il y a tordu le corps, je me dis, c'est quoi ça ? Et ils avaient des sacs remplis d'objets. Et ils allaient faire quelque chose. Et je suis resté, je me suis balayé dans le coin. Ils ne voulaient pas que. Ils ont attendu que je parte. Ouais, donc voilà. Et c'est dans le coin où il y a les rituels, justement. Voilà.
Jacques Sirgent, merci d'être venu encore une fois
merci
ce soir.
Merci à vous tous, merci à toi.
C'est toujours passionnant, donc le musée des vampires à visiter, la visite du Père Lachaise qu'on fera et qu'on va monter dans les mois qui viennent. Je sais que vous êtes nombreux à me dire à chaque fois, est-ce que ça tient toujours? Est-ce qu'on avait parlé dernière? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, ce sera toujours d'actualité. Attention, hein, il y aura peu de place, hein, donc il faudra pas, ce sera pas un bus non plus. Hein, donc, tour, mais si ça marche bien, on en montrera plusieurs, hein, donc ce sera très intéressant, ce sera l'occasion d'entendre de vive voix Jacques Sirgent.
Merci d'avoir écouté Mystère et Inexpliqué. Si vous voulez écouter d'autres épisodes de ce podcast, c'est simple. Rendez-vous sur le site et l'application Europe 1 ou sur votre plateforme audio préférée. Vous pourrez vous abonner en un clic gratuitement. Rendez-vous aussi sur btlv.fr pour découvrir la toute dernière saison du média numéro 1 sur le mystère et l'inexpliqué. Mystère et Inexpliqué est un podcast créé par BTLV, adapté et diffusé par Europe 1. À bientôt.